Salut les sorciers! Bienvenue dans ce 50e épisode de notre podcast. Bientôt 8 ans qu'on partage avec vous nos papotages pour découvrir et redécouvrir l'univers des sorciers et l'actualité du monde magique. Waouh! On est toujours là et merci vous aussi d'être toujours là à nous écouter et à nous soutenir. Aujourd'hui, on sort les bottes parce qu'on part à la campagne. Direction Loutry-Saint-Chaspoul, petit village du Leven où se cache le foyer de la famille Wesley. Ceux-ci tirent leur nom de Wesel, qui signifie belette en anglais, et c'est un petit animal qui vit, évidemment, dans des terriers, et ça a directement induit le nom de leur domaine. Ouais, je dis domaine parce que c'est quand même pas juste l'humble masure, à mon avis, qu'on pouvait imaginer, c'est quand même assez grand. Donc, le terrier, pour démonter la baraque du sol au grenier, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Lys.
Salut!
Marjolaine.
Salut.
Et Oliverius.
Bonjour.
Alors, petit tour de table, déjà, comme d'habitude, je ne suis pas très original. En quelques mots, mais vraiment en quelques mots, on va développer ensuite. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on vous dit le terrier?
Du coup, pour moi, alors, à l'inspiration comme ça, le terrier, pour moi, c'est une maison familiale. Je pense que c'est le mot qui m'inspire. Voilà, c'est familial, le côté chaleureux. Alors, bon, qui est aidé par la famille Weasley en tant que telle. Mais ouais, c'est, pour moi, c'est un peu un lieu de réunion. Voilà, un lieu de réunion où effectivement, on retrouve toute la famille quand tout va bien ou quand tout va mal. Enfin, ça, c'est vraiment très variable, mais en tout cas, un lieu chaleureux où il y a beaucoup d'entraide et de conseils entre chacun. Et voilà, c'est vraiment un lieu chaleureux pour moi.
Ok.
Je dirais même que c'est un foyer. C'est un endroit où on aime s'y retrouver et il est indissociable de la famille Weasley. J'arrive pas à imaginer le terrier sans les Weasley, concrètement.
Ouais, exactement.
Ouais, bah, c'est... Pareil, hein, chaleureux, foyer, puis un peu chaotique aussi quand même, parce que
oui.
Je pense qu'il y a le côté, puis il y a beaucoup de faits main, entre guillemets, enfin de, on sent que c'est une maison, c'est pour ça que c'est indissociable des Weasley, on sent qu'ils l'ont fait évoluer en fonction des besoins de la famille, donc c'est voilà. Je sais pas, j'associerais aussi le homemade,
oui.
Le terrier.
Effectivement, c'est un peu ça. Bah, j'ai un peu construit l'épisode sur les différentes choses que vous avez évoquées. Hein.
Bah, c'est
tout bien. Bah ouais, comme quoi on est sur la même longueur d'onde. On voit la même chose, on parle de la même chose en tout cas. À savoir que j'aimerais bien d'abord qu'on aborde justement le côté tu disais que c'est indissociable de la famille Wesley et que c'est une maison de famille. Et donc, j'aimerais qu'on aborde le côté vraiment quotidien, en fait. Parce que pour moi, c'est un peu un message qui nous est adressé à nous, lecteurs. C'est une fenêtre, en fait, vers le quotidien d'une famille sorcière un petit peu lambda. D'abord, et puis après, il y a l'autre versant, effectivement, qu'on abordera dans un deuxième temps, qui est ce que c'est que le terrier pour Harry, en tant que personnage principal, évidemment, de la saga. Et donc, si ça vous va, on peut commencer à aborder le côté vraiment concret, vraiment très matériel du terrier.
Allons-y.
J'ai juste noté une phrase pour commencer. Hein. Je dis que le terrier, c'est effectivement d'abord la maison de famille des Wesley, comme tu disais, et c'est là où on grandit Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron et Ginny, et qu'ils ont du coup bien laissé leurs traces dedans. Mais il n'y a pas que ça, évidemment.
Ouais, c'est là que ça donne l'impression, comme je disais, que en tout cas, Arthur et Molly sont partis de rien. On a l'impression qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas hérité de cette maison qu'ils ont construite quand ils, quand ils ont dû s'installer ensemble, j'imagine, et que du coup, au fur et à mesure des enfants qu'ils ont eus, ils ont construit les pièces qu'ils avaient besoin, qu'au début, ils n'avaient pas trop de moyens. Alors du coup, ils ont fait des petites maisons, puis après, ça a commencé à se construire petit à petit. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me rappelle... voilà, moi, mes parents, ils ont fait construire la maison où ils habitent toujours. Et pendant les premières années, on vivait qu'au rez-de-chaussée parce qu'ils n'avaient pas encore les moyens d'aménager le premier étage. Et que du coup, j'ai des souvenirs de qu'on vivait tous au rez-de-chaussée. Puis au fur et à mesure, il y a eu une première chambre qui a été prête à l'étage. C'était la mienne. Puis après, il y a eu la deuxième chambre qui était prête pour mon frère. Puis après, la salle de bain. Donc, j'imagine un peu ça aussi pour les Weasley, ce côté maison qui grandit en même temps que la famille. Et évidemment, la magie aide un peu
pour ça. À maintenir le tout.
Et puis, l'image qu'on en a, enfin, déjà la description qu'on a faite sur le papier, mais encore plus l'image, le visuel qu'on en a dans les films, c'est vrai que ça aide à ça. Je me suis posé exactement la même question que ce que tu as évoqué, où on ne sait pas effectivement d'où vient la maison, en fait. Est-ce que c'est une maison familiale, déjà ancienne une dépendance peut-être qui appartenait aux parents de l'un ou de l'autre, ou est-ce que c'est Arthur et Molly qui l'ont acheté pour y fonder leur famille?
Mais c'est vrai qu'on n'a pas de background. On sait que les Weasley, c'est une famille de sang pur, mais qui n'a clairement pas de moyens. Donc, Arthur, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui a arrêté de rien du tout. Quoi. Alors, on ne sait pas quelle est l'histoire derrière ça, mais
c'est vrai que... Ça pourrait venir du côté prouette. Hein.
Ouais, alors par contre, c'est quel côté qui allait... J'ai l'impression que c'est plutôt du côté prouette qui avait un peu plus de sous. C'est de quel côté la fameuse tante
Muriel, j'ai l'impression qu'elle est Wesley. Hein.
Ouais, je crois que c'est une Weasley, effectivement.
Parce que côté prouette, à part les frères de Molly, on ne connaît pas grand-chose. Hein.
Mais oui, ça devait être une petite maisonnette qu'ils ont construite au fur et à mesure. Peut-être un peu, oui, maison de campagne avec des animaux au départ un peu précaires. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des naissances, ils ont agrandi, évidemment, avec l'aide de la magie. Parce que quand on voit, comme tu disais, à quoi ça ressemble, alors oui, on a l'image dans les films. Heureusement que la magie est là parce que c'est, on dirait, un château de cartes. Un coup de vent et tout s'écroule, quoi.
On imagine bien Arthur construire ses extensions hein, avec son côté bidouilleur.
Ouais, complètement.
Mais j'aime bien cette idée de construction au fur et à mesure. Ça fait très Weasley, justement.
Je pense que c'est même ce qui donne ce côté un peu chaleureux. C'est pas préfabriqué, il y a du charme, en fait, malgré tout, j'ai l'impression, dans ces petites extensions. À chaque fois, je trouve que ça donne du charme, en fait. Ça fait un peu cocooning.
C'est encombré, mais on a envie d'y rester quand même. C'est petit, encombré, mais il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'y rester, même si c'est le désordre. Parce que c'est souvent posé le désordre du terrier est souvent opposé à la propreté du cadre Private Drive, un peu trop propre, un peu trop bien rangé.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce contraste-là. Et puis après, plus tard, on a le contraste avec la maison, avec le manoir des Malfoy.
Oui.
Où là, c'est très froid, très... Il y a trop d'espace. Mais...
C'est vrai que ça définit bien la famille. Ils sont nombreux, il y a du bazar partout. Ça vit, en fait. Ça respire la vie, il y a les animaux. Enfin, je trouve que ça respire un peu la vie, quoi, finalement. Contrairement au manoir des Malfoy, où c'est pas la joie, quoi.
On le voit à un moment particulièrement sombre. Hein,
les images.
Après, de toute façon, aussi, ce qui fait que c'est chaleureux, c'est justement parce que... Il y a la maison, il y a les agrandissements, mais il y a du coup une personnalité. Ils ont fait dépasser leur personnalité pour que leur maison puisse incarner réellement leur famille. On voit la décoration, il n'y a pas de doute, quoi. C'est vraiment tel qu'on l'a décrit dans les livres et puis tel que c'est montré dans les films, c'est encore plus vrai, quoi, avec les vitraux, les vitres. Cassé, réparé un petit peu en mode vitrail avec des petits motifs. C'est une maison qui a une histoire, quoi.
Elle a une âme.
Très clairement. Et littéralement une histoire, parce que dans les films, en plus, ils se sont inspirés, si je ne dis pas de bêtises, d'une ferme de style Tudor, un petit peu. Donc, c'est un truc historique, quand même, qu'ils ont ensuite agrandi. Et dans les livres, c'est décrit comme peut-être comme une porcherie, je crois, à l'origine. Donc ça peut être, c'est pareil, on est dans le domaine un petit peu de la ferme, quelque chose d'un petit peu ancien et qui a été vraiment complètement réapproprié.
Ouais, ça fait un peu, j'imagine bien en fait le jeune couple qui n'a pas de moyens, qui récupère un truc en ruine et qui se dit bon bah, on l'achète parce que c'est pas cher et parce qu'il y a une belle vue.
Il y a du potentiel.
C'est ça. Et on y met tout notre énergie et tout notre courage.
C'est ça.
Et, ouais, et puis ensuite, il y a Bill qui arrive, donc on y met encore plus d'énergie parce que il faut bien. Il faut.
Ouais, et puis bon, bah, le fait que Molly a passé quand même. Comme a priori, elle est mère au foyer, elle a peut-être encore plus investi dans la maison, en faire ce dont la famille a besoin. Je pense que. Autant, il y a le côté Arthur avec son côté bricoleur, son côté à tester des choses, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le côté Molly. Molly, il a mis beaucoup d'elle, je pense, dans cette maison pour vraiment donner à sa famille ce dont elle avait besoin, quoi. Donc, c'est très touchant comme lieu, je trouve. On peut y projeter pas mal de choses qu'on peut connaître dans notre entourage ou quoi. Enfin, c'est un lieu où on a envie de passer du temps et
d'aller se ressourcer.
Ouais, c'est ça. Puis ouais, le cadre, moi je trouve qu'il est trop bien ce cadre aussi, ce cadre champêtre, comme tu disais, qui est un cadre parfait pour grandir, où on peut jouer au Quidditch dehors, on peut s'amuser dans le jardin, on a de l'espace.
Dégnommer le jardin.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Et c'est là où Ginny s'est entraînée à jouer au Quidditch toute seule, sans que ses frères la voient pendant des années.
Bah, ils ont pu voler, ils peuvent voler tranquillement. Alors après, c'est aussi parce que c'est intégré dans un réseau de maisons sorcières isolées les unes des autres, mais quand même, il y a quand même un périmètre, on va dire, où il y a quand même plusieurs... Oui. Plusieurs familles installées comme ça, un petit peu à l'écart. On sait que dans leurs voisins, ils ont notamment les Digori. Enfin, voisins, évidemment, tout est relatif, mais on sait qu'ils ne marchent pas très très longtemps avant de rejoindre les Digori pour aller à la Coupe du Monde.
Oui, oui.
Donc, je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui ne sont pas si éloignés que ça aussi. Donc.
Les Lovegood sont un peu éloignés, mais ils sont pas très loin du village.
Moi, je pensais à eux aussi.
Oui, je crois. Ouais. Ils sont en tout cas dans la même, même région. Fin.
Ouais, dans le Devon aussi, on va dire. Quoi. Avec à peu près. Donc,
Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, comme on avait fait notre épisode sur Préolard il n'y a pas si longtemps, là, on est vraiment sur une maison isolée. Quoi. Il n'y a pas de village, il n'y a pas de. C'est assez différent quand même comme.
Mais c'est un peu pour ça que je parlais de domaine dans l'introduction, parce que pour moi, le terrier, ça peut pas être, on peut pas le considérer juste comme la maison, comme si c'était juste le petit pavillon au bord de la route avec le petit carré de pelouse. Quoi. On sait qu'il y a plus qu'un carré de pelouse. Et à mon avis, c'est quand je pense terrier, je pense vraiment, même si je pense pas exactement à la maison des films, j'ai au moins autour l'idée d'un paysage qui ressemble à celui qu'on a dans les films, quoi. Un grand espace. Je pense qu'il y a vraiment un grand terrain et qu'avant d'arriver vraiment à la maison, si tu arrives à pied du village Moldu à côté, tu en as quand même pour. Tu as une bonne partie du trajet où tu vas marcher sur les terres, entre guillemets, le terrain des Wesley avant d'arriver à la maison, quoi. Pour moi, c'est vraiment. Ils ont plusieurs hectares.
Oui, puis c'est un terrain qui n'est pas très praticable non plus. Il y a pas mal d'eau. Enfin, j'imagine vraiment une espèce de prairie avec
marécageuse,
c'est ça. La pelouse, elle n'est pas tondue tous les jours, quoi. Clairement. Donc,
le terrain, il est comme la maison, quoi.
Il y a le fameux marécage où dans le film, on va dire, le 6, où il y a le combat contre les mange-morts.
Oui.
Même si, voilà... J'aime pas trop cette scène, mais il y a un grand marécage quand même à côté.
Oui, puis le 7.1, où il atterrit
dans l'eau
avec la moto aussi.
Oui.
C'est ça.
Et puis, ouais, non, on sait que effectivement, il y a au moins un grand bosquet à côté parce que c'est là qu'ils vont, enfin, un grand champ entouré d'arbres où ils vont s'entraîner à voler. Il y a les poules qui se baladent partout. On peut supposer qu'il y a quand même pas mal d'espace pour elles. Il y a les gnomes qui.
Un peu partout.
C'est ça, donc.
Ils s'amusent bien.
Mais c'est. Pareil, les créatures, je trouve qu'elles montrent un petit peu ce côté accueillant, même si c'est des gnomes. On se dit, ah, mais le terrain, il le laisse un petit peu vivre sa vie, et du coup, bah, les gnomes, c'est accueillant, et les gnomes, ils ont envie de venir et de revenir parce que ils s'y sentent bien aussi, quoi. Et comme dans la maison, il peut y avoir la goule qui vient s'installer parce que bah, ouais, c'est chaleureux.
C'est horrible ce que je vais dire, mais ça me fait un peu penser aux mauvaises herbes qui s'installent quand bah, on ne fait pas trop attention au jardin. Bah, les gnomes, voilà, bon, il y a du.
Et c'est un signe de bonne santé. En plus, en général, quand on a des herbes folles et des espèces dites invasives qui s'installent dans le jardin, c'est aussi parce que le terrain, il est propice, il n'est pas empoisonné complètement par des pesticides et des herbicides. Et du coup, c'est plus sain, quoi, en général.
C'est ça.
Donc, c'est complètement ça, quoi.
Mais c'est vrai que pour le coup, dans le film, c'est vraiment bien retranscrit cette ambiance. Alors on voit pas tant que ça à l'extérieur, mais l'intérieur, la lumière, la chaleur, c'est vraiment, pour le coup, je trouve c'est très. Moi, j'ai vraiment en tête là ces premières images dans le deuxième film où on rentre avec cette ambiance. C'est vraiment, ça marche très très bien, je trouve.
Oui, puis avec la touche de Molly, comme on disait, qui a mis de la magie un petit peu partout, avec voilà, le tricot, voilà, la vaisselle qui se fait, le repas qui se fait. Enfin, ça vit, même si la maison est calme, ça vit par la magie, grâce à Molly, je pense, qui a mis en place tout
Ouais,
ça.
parce que d'un côté, on peut se dire, bon, bah, c'est elle a utilisé un sort, mais en fait, c'est ses gestes qui sont reproduits, quoi. C'est pas un truc automatique, c'est pas une machine qui est en train de
Non.
tricoter. C'est un type de magie où j'imagine bien que c'est les gestes de Molly qui sont
C'est ça.
reproduits. Donc, ça reste quand même du tricot fait main, même si c'est avec un petit peu d'aide, quoi.
Non, mais on peut imaginer effectivement qu'il y a une forme d'imprégnation des baguettes où Molly, finalement, à force de tricoter, puis à un moment, elle tricote et il y a les jumeaux qui arrivent à côté qui font une connerie, elle lâche la baguette et la. Enfin, elle lâche les
Électrique,
aiguilles, et
les
les
aiguilles,
aiguilles ont tellement l'habitude et elles baignent tellement dans une ambiance magique que le tricot, il continue à se
c'est
faire
ça.
pendant que Molly sépare les deux autres. Puis elle reprend
J'adore.
son aiguille pour continuer son tricot. Puis elle lâche l'autre aiguille pour aller choper Ron qui est en train de faire encore autre chose à côté. Et puis finalement, elle se dit, mince, il faut que j'aille
J'ai
commencer à
loupé.
préparer le repas. Elle lâche tout et il y a tout qui continue, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. L'idée est pas mal.
Je pense qu'il y a quand même il y a un côté imprégnation probablement aussi quand même pour la magie. C'est bien
Et de la magie vraiment quotidienne, c'est ça que j'aime bien. Et qu'on avait un petit peu qu'on commençait à avoir un peu, parce qu'on n'avait pas tant que ça dans les films. Dans le premier, notamment Animaux Fantastiques, quand on arrive chez les sœurs, chez Tina et Queenie, je trouve qu'il y
Oui.
avait vraiment cette idée-là d'un intérieur magique quotidien, un foyer où tout est. Où la magie est très. C'est pas.
Naturel.
Voilà, c'est pas la grande magie un peu tape à l'œil ou un peu ancienne et tout qu'on peut avoir à Poudlard, c'est vraiment un truc très à
Simple en
l'échelle
fait.
d'une famille et qui est pas voilà qui est une imprégnation de quelques dizaines d'années, mais c'est pas quelque chose comme on peut avoir à Poudlard, quoi.
Bah, c'est le côté, c'est de la magie, mais on sent qu'il y a une réflexion pragmatique en fait sur la magie, sur ce que ça veut dire vivre avec la magie au quotidien, quoi.
Ouais.
Oui, et puis ils n'ont pas, parce que bon, probablement déjà ils n'ont pas les moyens, ils n'en veulent probablement pas non plus, mais ils n'ont pas d'elfe de maison qui vient faire le ménage ou faire à manger. Donc en fait, toutes ces tâches-là, c'est à la famille de les faire. Et donc, bah, effectivement, quand la magie peut un petit peu aider, surtout pour aider Molly, parce que c'est quand même elle qui est attribuée à toutes ces tâches, et ben voilà.
Après, on le décrit facilement, je trouve, le terrier un petit peu comme comme un côté un peu étriqué, mais c'est plus un côté encombré aussi, je pense, à l'intérieur, mine de rien, parce que justement, je pense pas que c'est... Je visualise pas forcément un truc tout petit, mais par contre, effectivement, la cuisine, comme il y a beaucoup de chaises, une grande table, un truc accueillant, le séjour, il y a plein de fauteuils pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et puis ensuite, il y a aussi il y a les étages, quoi, ensuite, qu'on ne voit pas énormément, mais qu'on voit un tout petit peu. Et je trouve ça marrant aussi quand on monte, parce que chacun s'est vraiment, je pense, approprié son espace aussi. On ne voit pas tout. Non, on ne voit pas tout, évidemment.
Mais... Chaque chambre est vraiment personnalisée à chaque personnage. Je vois bien... Moi, à chaque fois, quand je pense aux chambres, je pense à la chambre de Ron qui est vraiment tout orange avec toutes les affiches de Quidditch. Je crois qu'on a même la description de la chambre de Fred et George à un moment donné.
Oui.
Dans le 6, quand ils vont pour quand Hermione se prend le télescope. Là. Mais ils ont chacun mis leur personnalité dans leur chambre et dans chacune des pièces.
Et je crois que c'est dans le 2. Alors là, pour le coup, c'est vraiment côté film où j'ai une image assez marquante où. Il y a toutes les têtes de chaque enfant aux différents étages qui apparaissent la vue du dessous. Et je trouve que c'est vachement représentatif. En fait, chaque enfant a son étage, sa petite zone, grosso modo, même s'il y a des chambres où ils sont ensemble pour les jumeaux et autres. Mais ça donne vraiment l'idée du volume, mine de rien, qu'il y a dans cette maison en hauteur. Quelque chose de très en hauteur, avec chacun une petite bulle dans cette... dans cette hauteur-là, enfin, j'aime beaucoup cette image-là, pour le coup des films.
Je crois qu'il y a 5 étages, hein, au terrier, si je ne dis pas de bêtises.
Ou dans les films, quelque chose, ouais, je ne sais plus exactement, c'est bien possible.
Ça me rappelle, mais je ne sais plus si j'en avais déjà parlé dans un podcast, c'est possible, mais quand je jouais aux Sims, où j'avais fait une famille Weasley, et où j'avais essayé de partir de ce principe-là, d'avoir une petite maison, et puis de construire des étages à chaque fois qu'il y avait des nouveaux enfants...
Est-ce que les Sims autorisent les étages qui sont un peu dans les airs comme ça, un peu suspendus?
Totalement.
Pas sûr, mais.
Bah oui, tu fais ce que tu veux.
Mais t'es limité dans les Sims en nombre d'étages, c'est ça qui
bloque. Non, après, du coup, ça partait un peu sur le côté, un peu, j'essaie quand même de faire des trucs un peu tordus et tout, c'est rigolo.
Mais là, on a parlé de la représentation dans les films et dans les livres, mais moi aussi, j'ai bien aimé, c'est la représentation dans les jeux vidéo, avec Harry Potter 2 notamment. Où on avait accès au jardin pour dégnommer.
Oui.
Et j'adorais. Où on avait la grange aussi. Il y a même une. Celle des jeux Lego, ça ressemble énormément à celle du film. Mais oui, c'est pour toujours. La première fois que. Je ne sais pas quand est-ce que le jeu vidéo est sorti, juste après le film ou juste avant, je ne sais pas.
Juste après, je crois, en général.
Juste après. Mais ouais. Ça n'était pas du tout la même vision que dans le film. Et c'était quelque chose aussi très chaleureux, mais différent.
Bah, si ça a été conçu à peu près en même temps, comme on l'avait pas encore vu avant le deuxième film. Ouais.
Et on avait accès à des zones dans lesquelles on voit pas dans les films.
Mais finalement, on voit très peu l'extérieur, notamment dans les films. Hein. Oui. Alors que dans les livres, finalement, mine de rien, ils passent quand même beaucoup de temps à l'extérieur dans les livres.
Hein. Ils jouent au Quidditch.
Ils jouent au Quidditch, mais ils mangent aussi dehors. Hein. Oui. Il y a un anniversaire de Harry qui se passe dehors.
Le mariage de Bill et Fleur.
Il y a le mariage. Et
c'est là qu'on y est. On y est souvent l'été, quoi. Donc c'est.
Il y a
au beau jour.
C'est ça. On sait qu'il y a la cabane dans laquelle Arthur bricole. On sait qu'il y a une cabane à balai. On sait qu'il y a on devine qu'il y a un poulailler. Et il y a peut-être d'autres animaux, hein. On nous parle des poules, mais ça se trouve, il y a d'autres animaux qui vadrouillent un petit peu ailleurs sur le terrain. Hein, donc,
D'ailleurs, j'imagine trop, autant Arthur a son petit espace pour bricoler, blabla, autant j'imagine trop aussi avoir Molly, que Molly, c'est qu'on n'a jamais vu, mais qu'elle s'est aménagée une petite pièce rien que pour elle, où personne n'a le droit d'entrer.
Où elle est tranquille, sans enfant qui vient crier, pas de dispute.
Où elle a mis que des choses qu'elle aime.
Et puis son potager, je pense.
Oui, son potager aussi. Oui.
Ça, c'est pareil, on ne voit pas le potager de Molly, mais à mon avis, ça doit être une tuerie, ce truc. Ça doit être incroyable.
C'est vrai. Oh, jardin magique, c'est quand même... Un potager magique, c'est trop cool, quand même.
Ça pousse plus vite.
C'est pour ça qu'il faut une petite com sur le terrier.
Ouais.
Pour découvrir tous ces lieux... qu'on n'a pas encore vu dans les films et dans les livres.
Non, ou un jeu de gestion où tu t'occupes de ton terrier. Quoi.
Oh, ça peut être pas mal.
Ouais. Molly, tu l'appelles juste comme ça le jeu. Tu es Molly, tu dois prendre soin de la famille et du terrier. Go!
Ne lance pas trop d'idées de jeux mobiles parce que sinon...
Ah, ça serait quand même un gros jeu, je pense, parce que surveiller en plus l'horloge pour savoir qui est où, à qui il arrive quoi.
Oui, l'horloge.
Ah, c'est ces objets, quoi, là. Ces objets magiques du quotidien. Il y a l'horloge.
D'ailleurs, cette horloge, pareil, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont acheté? Quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes?
Ah, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils l'ont... J'imagine Arthur ayant acheté une horloge un peu à la mode du... Et par la magie, ils ont un peu customisé l'horloge pour laisser apparaître chaque membre.
J'ai l'impression que c'est quand même, ça a l'air d'être une magie assez ancienne. Et je me dis qu'il y avait peut-être déjà une base, à moins qu'ils aient tout fait depuis le début. Mais j'ai l'impression qu'il y a une magie assez puissante derrière cet objet quand même. Pourquoi pas un héritage familial ou
Peut-être quelque chose qui s'offre soit chez les Prewet, soit chez les Weasley quand... Un couple s'installe, ils offrent une horloge et...
Et est-ce que ce serait pas un héritage Prewet finalement? Parce que on sait que les deux frères de Molly avaient des montres, au moins l'un des deux.
Oui. Ah, c'est la magie Prewet, c'est une magie des. Une magie
ça se trouve les Prewet étaient des horlogers magiques.
Ah, peut-être.
Ah, j'adore.
Mais c'est forcément de la très très grande très très grande magie hein, pour le coup parce que. Faut quand même que chaque aiguille soit vraiment intimement reliée à chaque personne. Ensuite, il faut réussir à identifier, à garder. En fait, il y a une forme de. Ça doit être. C'est un enchantement qui doit s'apparenter un petit peu à la trace, en fait. Hein.
Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vrai.
Pour permettre d'identifier.
L'horlogerie, c'est déjà un art dans notre monde à nous. Donc, je verrais bien ça comme un art magique qui est une horlogerie magique. Ça me choquerait pas du tout.
Ouais. J'adore cette idée d'une magie un peu familiale qui soit un peu thématique entre guillemets. Enfin, j'aime beaucoup.
Non, mais ça pourrait comme ça en plus. Si on se dit que c'est une histoire de famille, ça pourrait être comme ça que Arthur a rencontré Molly en allant, je sais pas, fréquenter le magasin peut-être familial du père.
Ils étaient à Poudlard ensemble, non, Arthur?
Oui, aussi. Oui.
Ouais.
Évidemment, mais ça peut être aussi l'occasion un motif de rapprochement, quoi.
Ou alors qu'il a croisé Molly pour la première fois quand il accompagnait son père ou sa mère à la boutique des Prewet et qu'il voit une petite fille qui se... et après, il se retrouve à
Poudlard.
Rousse
comme lui.
Ouais.
Oh, regarde, elle est rousse comme moi, papa.
On est pareil. C'est effectivement, je pense, l'un des objets les plus emblématiques. En fait, il y a deux objets vraiment emblématiques, je pense, chez les Wesley. Il y a cette horloge, évidemment, et puis il y a la Ford Anglia. Ce serait marrant, du coup, effectivement, si l'horloge est un héritage Prewet, alors qu'on sait que la Ford Anglia, c'est Arthur qui l'a...
Trafiqué.
Du made by Arthur.
Ouais, c'est pour ça que j'avais plutôt cette vision d'une horloge un petit peu remasterisée par Arthur.
Ouais, mais comme c'est vraiment un truc qui est... Autant l'horloge, c'est un truc, c'est très, très pratique, très lié à la famille, très lié à...
Et elle est à l'intérieur, comme Molly.
Et puis, puis qui est un peu lié aussi aux angoisses de Molly, quoi.
Hyper anxiogène, cette horloge. C'est horrible. C'est horrible. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou pas, parce que... Enfin, c'est très stressant, quoi.
C'est surtout, qui a eu l'idée de mettre...
Mort.
Cette case mort. En danger de mort. moment c'est le premier truc que tu mets, quoi.
On sait que dans le monde de la magie, bon, c'est un risque, mais c'est vrai que je trouve ça assez angoissant, en fait.
Bah ouais, surtout pendant la guerre, parce qu'ils étaient tout le temps en danger de mort. Donc,
c'est ça.
C'est pour ça que c'est vrai que c'est peut-être possible que ça soit une création, enfin, quelque chose qu'a fait la famille Prewet au moment de la première guerre.
Oui, surveiller un peu chaque membre.
Et que Bumba, du coup, il...
Quand ils ne pouvaient pas sortir de chez... Quand ils ne pouvaient pas se promener comme ils voulaient pour aller voir, rendre visite les uns aux autres pour être sûr que tout le monde aille bien. C'était une manière de garder du lien.
De savoir comment chacun allait. Ouais, peut-être.
Non, tu sais, c'est les applis là, qui existent là pour...
Ah, ouais.
Où tu suis... Où les parents, ils activent ça sur le portable de leurs enfants.
Ça, c'est plus malsain.
Ah, ouais.
Mais l'horloge a été faite en vrai, hein, c'était l'horloge État. Je sais plus comment ça fonctionnait exactement, mais il y a des Américains qui ont fait une version de l'horloge des Weasley dans la vraie vie. Hein.
Qui a été automatisée.
C'était essentiellement informatique. Hein.
Oui, bah évidemment. De toute façon, pour.
C'était pas magique.
Non, c'était lié au GPS des téléphones.
Mais cela dit, ça doit être intéressant quand même à coder parce que il n'y a pas non plus. Il y a des options a priori, en tout cas telles qu'on nous les présente, c'est des options un peu fixes quoi. C'est au travail, à l'école, à la maison, en danger de mort, en déplacement.
Ah, c'est surtout en danger de mort qui est
angoissant, oui.
Angoissant, mais qui est difficile, parce que si tu veux la faire dans...
Oui, là, tu peux, c'est un peu difficile à... Les autres, ça va, mais...
Parce qu'à l'école, je sais pas, sur le GPS, tu définis un lieu comme étant l'école, tu localises, c'est l'école, du coup, ça te dit quand la personne est à l'école, je pense. Mais pour en danger de mort, c'est...
Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a intriguée par rapport à chez le dentiste. Alors, je ne comprends pas pourquoi Gorn, il semblait un peu surpris quand Hermione lui racontait que ses parents étaient dentistes. On dirait que les sorciers ne connaissent pas, ils ne vont pas chez le dentiste, alors que sur l'horloge, c'est quand même chez le dentiste, quoi. Donc, ça m'a toujours perturbée. Ouais.
Est-ce que c'est pas une incohérence des films, justement, plus que... Parce que je sais pas s'il y a chez le dentiste dans les livres. Parce que c'est vrai que Arthur pose beaucoup de questions à Hermione pour savoir ce que font ses parents et il connaît pas le métier de dentiste.
Donc ouais. c'est surprenant quoi. Donc c'est peut-être une incohérence
des films. Ouais. C'est sûr que c'est une incohérence dans les films. Alors est-ce que c'est présent aussi dans le livre parce que...
C'est ça.
Est-ce qu'on la voit dès le film 2, cela dit?
Bah c'est là où il y a les gros plans dessus. Hein.
Oui, quand Harry découvre la maison, je crois.
Ouais, je suis quasiment sûre, ouais.
Est-ce que c'est mentionné dans le livre?
Dans le livre, il y a forcément mentionné quelques à la maison.
Oui,
ce genre
voilà,
de chose.
Quelques lieux.
Je pense que c'est dans le même chapitre, ouais, quand il arrive, où il découvre la maison et il doit y avoir un détail.
Effectivement, c'est au moment où il arrive. La pendule accrochée au mur en face de lui n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. C'est le truc marrant. C'est pas la même, en fait. C'est parce qu'il y a plusieurs pendules. Donc non, c'est pas celle-ci. Celle qu'on nous présente là, c'est... Tout autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions, heure du terre, de nourrir les poulets ou tuer en retard. Mais c'est pas celle-ci, c'en est une autre. Mais.
Eh ben, tu vois, il pointe exactement ce que tu dis. C'est dans le film, on peut voir la localisation dentiste. Pourtant, les sorciers ne vont pas chez le dentiste. Mais c'est dans le film, c'est pas dans le.
Donc ce serait que dans le film. Donc incohérence par rapport au film uniquement, alors. Bon, on est sauvés.
Mais c'est marrant parce que du coup, le fait qu'il y ait ces deux horloges, c'est quand même un indice aussi que ça pourrait être une affaire de famille d'être l'horlogerie.
Ouais, il y a une pendule, en fait. D'après le wiki, il y a une pendule dans la cuisine, celle que tu viens de décrire, et la pendule du salon. Qui est dans le salon, elle a 9 aiguilles, une pour chaque membre de la famille. Et là, à la maison, à l'école, au travail, en prison.
En prison? Ah ouais.
Oui.
Ils ont confiance leurs enfants.
Et durant la Deuxième Guerre, Molly transporte avec elle dans toute la maison. Et toutes les aiguilles sont toujours en danger de mort.
Oui.
au final, dans le tome 2, Harry ne passe pas tant de temps que ça au terrier. Et du coup, les descriptions sont relativement réduites.
Bah, il passe pratiquement un mois au terrier.
Mais donc, ça doit être dans... Ouais, mais en termes de chapitre, de page, ça fait pas grand-chose, parce qu'il y a le chapitre où il arrive, le chapitre, effectivement, où il découvre un petit peu la vie au terrier, mais on voit surtout le dégnommage et la chambre de Ron, et ensuite, ils partent sur le chemin de traverse, et ensuite, c'est directement le jour de la rentrée où ils partent essayer de prendre le Poudlard Express. Donc ouais, en gros, elle doit nous dire, j'ai reposé le livre, mais elle doit nous dire, Harry passe un été extraordinaire... Et c'est ça. Mais en fait, c'est l'idée qu'il faut retenir. Et puis, il faut reconnaître que derrière...
Ouais, c'est peut-être presque dans... C'est peut-être dans le 6 où l'été est plus décrit. Puisque c'est là où je me souviens... Enfin, je crois où il joue au Quidditch.
Ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est dans le 6. Et dans le 6, il y a le Noël aussi au terrier qui est assez décrit.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, dans le 4. Dans le 4, on passe quand même du temps, je pense, avant de pouvoir aller à la Coupe du Monde et en rentrant.
Parce que dans le 4...
La Coupe du Monde prendre la place. Puis bah, déjà, ils vont le chercher... Ils vont le chercher chez Dursley de manière un peu...
Impromptu.
Oui, voilà, impromptu.
Il faut exploser le salon. Non, et puis dans le 4, le Noël, je crois pas qu'il le passe au Terrier. Hein. Non, il y a le bal. Il y a le bal, ouais. Donc il y a Poudlard. Donc non, il y a que quelques jours, je crois, dans le 4.
Ouais, je pense.
Parce qu'ils arrivent. Ils sont plus centrés sur la Coupe du Monde de Quidditch. Ouais.
C'est dans le 3 qu'il passe Noël au Terrier, hein, c'est du coup, le 3... forcément.
Ouais, le 6, oui.
Et le 6. C'est le 3 et le 6. Le 3, je pense, ça doit...
Non, le 3, vu qu'il y a... non, le 3, vu qu'il y a Sirius, ils vont pas au Terrier. Hein. Qui est en escapade. Je sais plus. Le 3, j'ai un doute. Le 3, j'ai un doute, parce que Harry peut...
Ils se font pas... Parce que ils ont des voitures au début du 3 qui viennent les chercher au chaudron baveur, donc des voitures du ministère. Est-ce que c'est pas encore le cas à Noël?
Mais non, mais il était à Poudlard parce que c'est qu'il reçoit l'éclair de feu de Sirius et il était à Poudlard pour recevoir l'éclair de feu.
Bon, et puis au niveau du quotidien, il y a d'autres choses qu'on découvre quand même au Terrier, mine de rien. Il y a le fait qu'il existe une radio sorcière quand même.
Moldybeg, oui.
On découvre Célestina.
Une grande chanteuse.
On ne connaît pas tant d'exemples de célébrités. Chez les sorciers, on connaît Célestina qu'on ne rencontre pas et Lockhart.
Oui.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de stars.
Et les autres, on les. Ça parle. Et les Bizarre Sisters.
Ah oui,
oui, c'est quand même. Ouais.
Mais ensuite, pas. Voilà, pas grand monde.
Non, à part des noms de potionnistes que Sid Slughorn ou des joueurs de Quidditch.
Et des auteurs, mais un petit peu mineurs, quoi.
C'est Dumbledore, la plus grande star.
C'est dans ça.
En star, il y a... En star, avant qu'on voie son personnage, on considérait comme star, il y a Victor Krum, quand même, qui est le plus grand attrapeur, qui est quand même adulé par Ron au début du 4, avant qu'il le déteste. Ouais.
Par jalousie.
Au final, quand on lit effectivement le reste de la bibliothèque de Poudlard, et notamment le Quidditch à travers les âges, c'est là qu'on découvre qu'il y a quand même de nombreuses équipes de Quidditch et qu'effectivement, ils sont quand même... Mais il n'y a pas le star system qui existe chez les Molles, du coup. Non. A priori, on n'a pas l'impression, à part justement quelques exceptions comme Lockhart, comme les Bizarre Sisters, et encore Célestina Moldybeck, je ne sais pas si on peut parler de star system. Quoi. C'est,
elle est star chez les ménagères de moins de 50 ans, quoi.
Bah, elle passe à la radio, elle est probablement adorée, mais... Mais c'est pas du star system moderne, quoi, comme aujourd'hui.
Après, on sait pas ce qu'il y a dans Sorcière Hebdo. Hein. Ça se trouve, il y a les potins.
Et les différents vainqueurs du sourire le plus charmeur.
À part Lockhart, on n'en connaît aucun autre.
Mm. Parce que Harry, il lit pas Sorcière Hebdo. Donc...
Non. Mais qu'est-ce que Harry lit aussi?
La Gazette.
Quidditch Magazine. Quidditch Magazine.
Oui, Quidditch Magazine, ouais. Et la Gazette, mais pour avoir des informations sur...
les actualités, quoi.
Il regarde pas la rubrique célébrité.
People.
Non, parce que je crois qu'il passe même à travers des articles qui sont écrits sur lui à certains moments.
Probablement. Ouais, il balaye vraiment
Rita
ça.
Rita Skeeter, c'est un peu une célébrité aussi. Mais...
Oui, et en même temps, c'est un peu... Je sais pas si on peut parler de célébrité à propos d'elle, parce que c'est vraiment elle qui va plutôt aller chercher des célébrités pour en dire du mal. Mais
oui, mais tu vois, c'est un peu ce qu'on peut avoir dans, je sais pas, des célébrités de la télévision qui, tu vois, des gens qu'on connaît juste parce qu'ils reçoivent des stars sur leur plateau.
Elle fait la presse à scandale, quoi.
C'est marrant hein, qu'il n'y ait pas non plus de radio jeunesse sorcière. Alors, on est au début des années 90. Peut-être qu'effectivement, les radios libres n'avaient pas encore fait leur apparition dans le monde magique britannique.
Ou on ne le voit pas parce que Harry et les autres sont trop occupés avec des problématiques bien plus importantes que ça. Mais ouais, c'est vrai qu'on en entend
pas parler. Ça s'écoutera à Poudlard s'il y avait des...
radios. Oui, après, voilà, on sait qu'il y a des radios pirates, puisque pendant la guerre...
Il y a Potter Vale.
On en connaît une, mais peut-être qu'il n'y a pas de radio libre, en fait, hein, parce que on a l'impression que ça a toujours existé, mais...
Oui, c'était plus contrôlé.
Faut bien se dire que c'est à peine plus de 10 ans avant, avant l'apparition de Harry Potter, hein, en France, qu'il y a eu les premières radios libres.
Oui, donc effectivement, ça se tient. Hein. Mmh.
Donc peut-être qu'effectivement, chez les sorciers, comme ils sont en plus pas très nombreux, il y a probablement moins de demandes et un potentiel de financement peut-être aussi moins important, hein, et un intérêt, accessoirement, parce que...
Il y a forcément d'autres radios, des radios de sport, notamment, je pense. Il y a forcément d'autres émissions que celles qu'on connaît.
Maintenant, peut-être aussi, mais peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas encore complètement... ouais. Tu vois, il y avait la presse papier pour le sport, mais il n'y avait peut-être pas encore de radio dédiée. Parce que sinon, je me dis, ce serait quand même surprenant qu'à Poudlard, il n'y ait absolument jamais... on ne voit jamais des jeunes sorciers en train d'essayer de...
Bah, c'est aussi...
de capter une...
Mais c'est aussi parce qu'à Poudlard, il n'y a pas de... C'est coupé des ondes. Poudlard est coupé de toute onde. Donc, il y a...
C'est ça... pas...
Non. Ça ne doit pas aider, quoi.
Mais c'est la technologie moldue qui ne marche pas, mais a priori, une radio magique... Bah,
moi, je suis sûr que les radios magiques ne fonctionnent autrement avec d'autres types d'ondes que la radio.
Pour moi, c'est la magie de manière générale qui empêche l'électricité de fonctionner. Mais rien ne dit que, effectivement, c'est pas que Poudlard empêche d'entendre, de capter la rythme.
Mais rien ne dit que la radio magique ne fonctionne pas exactement comme la radio moldue non plus.
Non, c'est ça. Mais après, voilà, c'est pas. C'est pour faire fonctionner le poste qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'électricité, mais s'ils ont une autre solution, peut-être que derrière, effectivement, oui, les ondes FM, peut-être que ça passe, peut-être qu'ils ont d'autres types d'ondes.
Oui, autre que...
Ils en ont forcément d'autres, parce que sinon, là, les ondes magiques, enfin les radios magiques, si elles étaient sur des ondes FM, elles seraient captées par les moldus, donc...
Oui, et puis on parlerait pas de
c'est peut-être ça, quand on tombe sur des trucs bizarres, des fois, on comprend pas ce qu'ils disent. C'est peut-être une radio magique.
C'est vrai, hein, ce que dit Olivarius. Hein, c'est, attention, la rythme, c'est radio indépendante à transmission magique.
Oui, c'est ça. Donc, c'est adapté.
C'est pas forcément des ondes.
Donc, c'est pour ça. C'est,
Donc, ça devrait pouvoir passer à
Poudlard.
Ouais. C'est juste que...
Ouais.
C'est juste que peut-être que les programmes, effectivement, de la rythme... sont pas très attractifs pour des adolescents.
Aussi, ce qui va dans le sens où il y a peut-être peu de différentes radios, c'est même dans les médias en règle générale, il y a très peu de médias écrits différents magiques. Hein. On n'en connaît pas énormément de médias d'actualité, à part la Gazette du Sorcier et le Chicaneur.
Sorcier Hebdo.
Sorcier Hebdo, mais oui, il y en a. Oui, mais c'est vraiment spécialisé au Quidditch. Mais en termes d'actualité, il y en a 3-4. Alors que. Dans notre monde à nous, c'est vraiment beaucoup plus diversifié, on a vraiment beaucoup plus.
Oui, bah après, c'est sûr qu'il y a plus, la population n'est pas la même non plus. Et accessoirement, bah, c'est aussi les titres qui sont mentionnés devant Harry. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y en a pas d'autres, mais qui sont...
Ouais, des petits journaux locaux, ouais.
Il y a peut-être quand même des journaux sur les actualités internationales, parce que... qui est peut-être plus discret dans la Gazette.
Après, concrètement, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans la Gazette, vu que on n'y voit que des gros titres. On voit pas vraiment tous les articles qu'il y a et tout.
Ce serait marrant, un courrier international des sorciers.
Ah ouais.
Pour savoir ce qui se passe dans le monde.
On aurait pu voir ça dans les Animaux Fantastiques 3, de voir des choses comme ça, mais.
Bon, on a ça dans les titres, les génériques, les trucs d'ouverture où tu as les collections d'articles d'un peu partout dans le monde. C'est un peu une sorte de courrier international.
C'est ça. Bon, on avait commencé à retourner un petit peu sur Harry. Donc, on peut peut-être se pencher sur la deuxième partie de l'émission où je disais effectivement dans un premier temps que je voulais qu'on parle un petit peu du côté vraiment fenêtre sur le monde magique pour le lecteur. Mais quand, voilà, quand on se replonge ensuite à l'intérieur et qu'on regarde à nouveau à travers les yeux de Harry, il y a ce que le terrier représente pour lui. Pas seulement ce qu'est matériellement le terrier, mais ce que ça représente pour Harry. Je pense qu'il y a une vraie évolution pour le coup du terrier au fil des livres, à partir du tome 2 jusqu'au tome 7, où au départ, pour Harry, c'est un petit peu un refuge vraiment en dehors du monde tel qu'il le connaît. Hein. C'est réellement, il s'évade littéralement quand même de chez son oncle et sa tante pour se réfugier à nouveau dans le monde magique, chez ses amis. Et ensuite, bah, ça va évoluer et ce refuge, il va se faire rattraper finalement par la réalité. Il va être réintégré dans le cours du temps et des événements et la cruauté de la vie, quoi.
C'est un refuge pour Harry comme l'a été la maison des Potter pour Sirius. Un endroit où il se sent comme chez lui, où il se sent chez lui, littéralement.
Ouais, c'est ça, il découvre une vraie unité familiale, même s'il y a des conflits un petit peu. C'est ce qui est normal aussi, c'est la famille, mais... Je pense qu'il découvre un endroit où il peut être écouté, où il se sent, oui, en sécurité, quoi.
Bah, il s'y sent bien accueilli, mais il s'y sent, je sais pas s'il s'y sent comme chez lui. Je pense qu'il a toujours ce côté un peu, bah, je suis l'invité, quoi. C'est pas comme quand t'es invité chez des potes où t'adores leurs parents et tu t'y sens bien, mais c'est pas forcément.
C'est pas son foyer à lui, quoi. Mais il y est toujours mieux que chez les Dursley, c'est évident.
Oui,
à défaut de mieux, bon bah...
On a fait tout un épisode sur les foyers, oui, donc effectivement, oui. Là, il y a de quoi faire.
C'était le top dans les foyers qu'on a cités, mais ça reste
quand même quelque chose, ouais. De cet ordre-là.
Et on en a parlé dans l'épisode sur les foyers. Je pense que ça va être sa référence, le terrier. Mm. Quand il va fonder son propre foyer... ça va être c'est ce à quoi il veut aspirer c'est ce à quoi doit ressembler une famille idéale pour lui, je pense.
Et puis
un chaos bien ordonné,
ouais. C'est ça.
et c'est vrai que dans les débuts, les premiers livres, je pense que ça fait un petit peu Arthur et Molly font un peu office de parents de substitution, même s'il n'y a pas que, il y a Dumbledore aussi, il y a voilà, mais c'est quand même, ouais, une référence là encore, hein, des parents référents, quoi.
Bah, je pense qu'on en a parlé aussi probablement de Arthur.
Désolée, je n'étais pas présente.
Dans l'épisode.
Dans les figures paternelles.
Comme quoi tout se rejoint.
Non, mais c'est ça, non, mais complètement. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a ce moment assez important dans l'évolution du rapport au terrier, où Harry décide de quitter le terrier pour protéger tout le monde. Et là, il y a ce côté vraiment le danger qui rôde et qui... c'est un symbole assez fort de dire je pars de cet endroit pour le protéger. C'est pas vraiment... c'est pas pareil que Poudlard, quoi, parce que Poudlard, il y retourne pas, mais c'est pas d'être à Poudlard qui mettrait en danger Poudlard en tant que tel. D'ailleurs, il n'y est pas. Oui, enfin, il n'y est pas. Il n'y est pas, et ça n'empêche pas, pas les Mangemorts de prendre le pouvoir, quoi. Mais enfin, d'y aller et de se l'approprier. Mais là, il y a vraiment ce côté. Je pars pour protéger un.
Et il y a un sacrifice déjà à ce niveau-là, à savoir déjà accepter d'abandonner des personnes qu'il aime. L'ensemble un petit peu de la famille Weasley, et un autre sacrifice dans le sens où au terrier, c'est quand même un des lieux où se fait une grosse part aussi de son éducation culturelle sorcière, magique quand même, et c'est le fait de quitter le terrier, ça veut dire être moins immergé dans le monde magique et du coup mettre un petit peu en pause cette sorte d'éducation. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
Si, c'est clair. Oui, il s'émancipe un petit peu quand il part, quoi, finalement.
Bah, ce n'est pas tant de l'émancipation. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Et on le voit bien derrière, quand Ron part puis revient, il leur dit bien que, voilà, il leur fait découvrir l'existence de Potter Veil. Ça montre bien, effectivement, que en quittant le terrier, ils sont coupés du monde magique.
Ils s'isolent,
ouais. En partie... plus ou moins, ils n'ont pas complètement tout coupé, mais ils sont bien isolés. Et du coup, Harry voit clairement qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas au taquet. Il va découvrir des choses derrière aussi. Il manque toutes les infos sur le tabou, notamment. les choses importantes.
Et je trouve, moi, que la coupure avec le monde magique est plus marquante par le fait qu'il ne passe pas son année scolaire à Poudlard, plus que le fait qu'il quitte le terrier. Même si le terrier a une importance quand même dans son éducation magique, Poudlard en a une plus grande, bah, pour moi.
C'est pas la même.
Ouais, je suis d'accord, c'est pas exactement la même chose, parce qu'à Poudlard, il découvre la magie en tant que telle, mais au terrier, il découvre ce que c'est que la vie de sorcier, vraiment. Et c'est avec les Weasley et au terrier qu'il découvre plein de choses du quotidien, effectivement, comme disait Linus, mais il est conscient, enfin il devient conscient de à quoi ça peut ressembler de une vie normale de sorcier. Il est au courant, il commence à être un peu courant de la politique, il entend parler du ministère de la magie, de voir quel type de métier peuvent avoir les sorciers aussi. Enfin, c'est quand même
oui, c'est plus global, c'est plus généraliste, mais que Poudlard, quoi.
À Poudlard, oui, c'est, puis ça reste une école, on est un peu hors du temps.
C'est
ouais.
Ça.
Ouais.
Là, il y a un côté concret, en fait. Par exemple, quand il dégnome le jardin, il dégnome, quoi. C'est concret. Il voit bien que les gnomes, ils s'installent dans le jardin de la famille. Alors que quand il est en cours de défense contre les forces du mal, il y a quand même un aspect très théorique, même s'il voit réellement des vrais animaux, des vraies créatures magiques. Ça reste un petit peu de la théorie et il sait pas, il se doute bien qu'il va pas recroiser un hippogriffe ou des vers à crasse tous les 4 matins, quoi.
Mais ça aurait été peut-être plus marquant s'il y avait plus de passages détaillés au terrier.
Bah après, il y a probablement aussi ce qui joue un petit peu, c'est la progression dans l'écriture entre les différents romans pour Rowling. C'est le fait qu'effectivement, au début, c'est des romans pour enfants, vraiment des romans jeunesse, donc assez courts. Et ensuite, elle se permet de faire des choses, d'en faire de plus épais, de plus denses. Mais au début, elle n'ose pas, et du coup, elle a probablement coupé ces parties-là, et peut-être qu'elle le referait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, je pense que les films insistent du coup, en proportion, les films insistent beaucoup plus.
Oui, tout à fait.
Et puis son rapport au terrier change aussi parce que le terrier devient aussi un squat pour pour l'ordre du phénix.
L'ordre du phénix ?
Il remplace un peu le squat Grimoire.
Complètement, même pas qu'un peu.
C'est le QG, ouais.
Mais plus que ça, c'est non seulement c'est le QG de l'ordre du phénix, mais en plus, c'est aussi, entre guillemets, le QG du trio. C'est là quand même, c'est l'un des lieux où le trio va construire ses plans pour vaincre Voldemort. C'est là qu'ils vont commencer à réfléchir à mettre en place leur traque des Horcrux. Alors ensuite, ils vont prolonger, quand ils vont fuir le terrier, ils vont le remplacer par le Square Grimoire, mais c'est pas à la base, c'est quand même... C'est vraiment...
C'est au terrier quand ils ont quand ils ont le temps de le faire, parce que Molly essayait tout le temps de les séparer le plus possible.
Oui, mais mine de rien, Harry a quand même construit ses plans là-bas, même si... le fait de vouloir partir tout seul et Ron a quand même fait en sorte de mettre en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir fuir avec Harry là-bas, par rapport à la goule notamment. Hermione a peut-être commencé un peu chez ses parents, mais mine de rien, c'est là-bas aussi qu'elle a trié leurs affaires pour avoir tout ce qu'il faut. Il y a trois lieux en gros. Il y a le terrier, ensuite il y a eu le Square Grimoire qui a remplacé par la force des choses le terrier, et ensuite il y a la tente. Qui a remplacé le Quark Grimoire aussi par la force des choses. Mais...
On dégrade au fur et à mesure au niveau du contexte de confort. Et de... Bon, même si la tente, elle n'est pas trop mal, mais ils se sentent pas du tout protégés dans la tente.
Ouais. Et sur la fin, il y a aussi la chaumière au coquillage, malgré tout, qui est un lieu où ils ont fait quand même fini leur plan. Ouais,
mais c'est pareil, finalement. La chaumière au coquillage, on sait qu'ils y passent quand même un temps conséquent.
Un mois presque.
On a quelques scènes majeures, importantes, qui nous sont décrites. Mais le quotidien, la chaumière au coquillage...
Non, on n'a pas le quotidien.
Rien.
On a les interrogatoires, en fait, principalement.
On est dans un contexte où j'imagine même si on avait la description du quotidien, c'est... Enfin, c'est un... On est dans un contexte de guerre où ils sont vraiment... on est hors du quotidien normal. Je pense que même...
Mais ouais, c'est la préparation du plan pour la suite.
Oui.
En plus, ils viennent de vivre un traumatisme avec la mort de Dobby juste avant, le fait qu'Hermione se soit fait torturer.
Bah, c'est un peu un moment de pause. Et je pense que si on avait en plus rajouté des moments, des scènes de vie quotidienne, ça aurait été un peu long dans l'écriture.
Mais justement, je trouve qu'on voit pas tellement on la voit pas tellement, justement. C'est une pause, mais c'est pas une vraie pause. Parce que quand ils y sont, ce qu'on omoute, c'est quand ils sont justement dans l'action ou dans l'anticipation de l'action, quoi. Il n'y a pas de moment où ils se posent comme on peut.
Mais dans le 7, au final, il n'y a pas tant. Dans le 7, dans le livre, il n'y a pas tant de pauses que ça. C'est beaucoup d'action.
Non, mais pause par rapport au moment où, effectivement, ils sont en interrogatoire avec Rick. Enfin, voilà, c'est une petite pause avant de repartir à la chasse aux Horcrux, quoi.
Oui, et puis il y a quand même cette scène.
Dans l'attente.
Et puis cette scène, bah un peu comme le moment, en fait, je trouve qu'il y a dans le 7e tome, il y a deux moments qui sont bien en écho entre le terrier et la chaumière au coquillage, où c'est un peu des monologues intérieurs de Harry qui oui. prend des décisions très individuelles et très profondes. Alors, au terrier, sur la décision de partir seul, bah, du coup, il va être stoppé. Enfin, il ne va pas avoir le choix d'aller au bout de ce plan. Et puis bah, c'est à la chaumière au coquillage où il prend vraiment cette décision hyper il y a vraiment un monologue intérieur hyper fort où il prend cette décision de laisser tomber la chasse aux reliques pour se concentrer sur les Horcrux et où il a vraiment je me souviens plus de tous les détails de ce monologue, mais il est vraiment très profond à ce moment-là. Il a vraiment son rapport, il repose son rapport à Dumbledore, il repose beaucoup beaucoup de choses à ce moment-là.
Oui, oui, tout à fait. Il remettait un petit peu même en cause un peu ce que lui a dit et pas dit justement Dumbledore sur le flou artistique qu'il a laissé.
Ouais, il fait presque la paix à ce moment-là. Fait presque. Ouais.
Bon, on a un peu dérivé.
Oui.
Non, mais c'est intéressant parce que. Ça, on montre aussi qu'au final il est obligé d'aller chercher d'autres refuges après coup, mais c'est parce que finalement ouais, ce refuge que constitue le terrier, bah, il y a quand même beaucoup de moments, plusieurs fois, plusieurs reprises où la réalité du monde elle vient faire éclater complètement en éclat la bulle de normalité et de cosiness du terrier, quoi. Il y a la vie de famille, parfois elle vole un petit peu en éclat. Il y a des petits hop, il y a des, on met des petits bâtons dedans et on sent que ça grince. Il y a Percy et Scrimgeour qui viennent s'immiscer. Percy, on pourrait dire il est de la famille, mais à ce moment quand il s'immisce avec Scrimgeour, oui. C'est à Noël dans le tome 6, c'est Noël 96, c'est pas pour, il représente pas la famille, justement, au contraire, il représente l'extérieur qui vient un petit peu gripper le bien-être familial. Et puis pareil, du coup, quelques mois plus tard, quand à l'été, Scrimgeour vient distribuer les legs de Dumbledore et remettre un petit peu un petit grain de sable dans l'horlogerie, ce qui préfigure à quelques heures près, de toute façon, le désastre qui va pas tarder à arriver lors du mariage, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que la présence de Scrimgeour au terrier, c'est vraiment très assez marquant, parce qu'on a jamais, enfin, normalement c'est vraiment un lieu où il y a que des alliés qui sont là, ou des gens proches. Et là, tout d'un coup, on a le ministre de la Magie qui est un personnage où on ne sait pas trop quoi en penser à ce moment-là, dont on se méfie. Et c'est vrai que... Et du coup, ça fait un effet un peu... mais enfin, on n'est pas à l'aise, quoi. Parce que, alors que normalement, au terrier, avant ça, il n'y a pas vraiment de moment où on est... On n'est pas à l'aise, c'est plutôt ça va, quoi.
Bah, c'est surtout la, la présence de Percy qui est en froid avec tout le reste de la famille, qui est présent et qui ne leur parle pas aussi, qui met cette tension, cette mauvaise ambiance.
Oui, c'est là que Scrimgeour dit on est venu parce qu'on était dans le coin, c'est la famille, tout ça, et on se rend bien compte qu'en réalité, pas du tout, ça marche pas comme ça, quoi. Et je trouve ce côté-là, il est un petit peu brusqué du coup dans les films, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que les Mangemorts, ils viennent faire l'attaque et ça a pas la même, c'est beaucoup plus brutal, quoi.
Ouais.
C'est pas un grain de sable dans le mécanisme d'horlogerie, quoi, pour revenir là-dedans.
Très beau.
C'est vraiment, j'ai mis un gros coup de pied dans ta montre. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais c'est vrai que c'est pas subtil, mais c'est quand même marquant. Enfin, cette attaque du
terrier, c'est
marquant.
C'est poignant.
Ouais.
Mais du coup, il n'y a pas cette préfiguration justement du petit grain de sable qui va s'installer et qui va faire que Harry peut-être va se rendre compte à cause de ça que ben mine de rien, c'est un refuge, mais il faut quand même qu'il parte.
Oui.
Là, c'est vraiment c'est cassé. Clairement, c'est pas un refuge. Tu vois bien, ils sont capables de venir et de tout péter.
C'est pas un lieu sûr à 100%, non.
C'est vrai que ça rend le fait qu'il s'y réfugie dans le set moins, pas moins crédible, mais si quand même moins crédible, parce que bon, après on peut imaginer que les lieux ont été reprotégés depuis, mais le fait qu'ils ont déjà été attaqués, ça donne un autre une autre faiblesse à ce lieu.
Dans les films, il n'y avait pas le choix, fallait quand même, puisqu'il fallait faire le mariage, il ne pouvait pas avoir lieu ailleurs. Mais c'est une petite maladresse.
Même si c'était intéressant ce qu'ils ont fait de montrer les traces de cette attaque avec le fait que ça a été repeint, que visuellement, on n'a pas exactement la même... on sent que c'est quelque chose... c'est une maison qui
a... Il y a une partie de l'âme de la maison qui s'est envolée et qui n'a pas encore été remplacée, quoi.
Qui est une partie des souvenirs qui ont disparu.
Et puis bon, après, ce refuge, de toute façon, alors clairement, là où il disparaît de toute façon définitivement dans les livres et dans les films, c'est d'abord lors de l'attaque des Mangemorts pendant le mariage, et puis de manière ferme et définitive, quand du coup, alors là, Harry n'est plus là, il l'apprend qu'après coup, mais quand la famille est complètement contrainte à la fuite et obligée d'aller se réfugier chez la tante Muriel.
Ouais, c'est
là,
ça.
C'est vraiment le moment où, de toute façon, le refuge n'en est définitivement plus un.
Ouais. Et c'est vrai que le fait que ce soit hors champ, ça renforce l'isolement de Harry, de se rendre compte de ça de manière détournée. Je ne sais pas, ça fait un effet un peu étrange. Je trouve que c'est une bonne idée, enfin, ça fait une bonne impression, c'est l'impression qu'on doit avoir à ce moment-là du livre. Mais d'un autre côté, on se sent avec Harry complètement coupé de tout le monde, quoi. Le fait d'avoir... d'entendre ce genre de nouvelles au loin, en étant loin, ça fait bizarre, quoi.
C'est frustrant.
Et puis, en plus, cette fuite fait que il peut définitivement plus... parce qu'il y a le terrier qui est un refuge, mais c'est la famille Wesley aussi. À travers le terrier, c'est la famille Wesley qui est un refuge. Et là, pour le coup, la famille, elle est coupée. C'est plus possible d'aller la voir, vu qu'ils sont protégés par un sortilège... Il pourrait techniquement prendre contact effectivement avec Bill pour aller les voir, mais ils peuvent, bon, ils le font pas, ce serait beaucoup trop compliqué, quoi. Ils peuvent pas de leur propre chef en tout cas y aller directement. Et au final, du coup, effectivement, ils vont se réfugier à la chamère au coquillage. Mais bon, j'ai pas prévu de conclusion.
Conclusion triste.
On peut rebondir quand même en se disant qu'effectivement, après la guerre, ça va redevenir probablement ce foyer chaleureux où il va falloir apprendre à vivre sans Fred, certes, mais à reconstruire une famille où les petits-enfants vont commencer à arriver aussi après. Et où ça va réellement devenir l'un des foyers de Harry quand il va épouser Ginny et qu'il va réellement rejoindre le clan Wesley.
C'est vrai qu'on peut imaginer que Harry a dû y retourner assez rapidement parce qu'il avait, enfin, je pense pas qu'il est allé au Square Grimoire vivre tout seul, quoi.
Non, c'est un peu trop grand pour une personne.
Ah, tout seul.
Ouais, c'est un peu triste.
Pas tout seul. Peut-être aussi que Ron, ils y sont retournés, je pense, juste après-guerre, parce que c'était obligé d'être chez les Wesley. Mais peut-être qu'après, avant d'aller s'installer d'aller acheter leurs propres biens, de trouver leur travail, etc. Peut-être qu'ils sont allés vivre, s'installer au Square Grimoire à 3-4 avec Ra, ou juste lui et Ron pendant que... ou alors lui et Ginny et Ron et Hermione avant de pouvoir trouver leur propre chez eux.
Mais après, il y avait quand même... Je pense qu'ils ont dû avoir pas mal de soutien des parents de Molly et Arthur, comme d'habitude. Mais parce que, mine de rien, il est le parrain d'un bébé qui est orphelin. Et il est hyper jeune, Harry, à ce moment-là. Donc, Teddy a toujours sa grand-mère, a priori. Mais, mais bon, en tant que parrain, c'est censé être lui qui doit s'occuper du bébé. Mais bon, je pense que la grand-mère est là. Mais à mon avis, il y a dû quand même y avoir... les Weasley qui ont été là aussi au soutien, sachant qu'en plus, les Weasley, ils avaient accueilli Tonks. C'est quand même... Il y a quand même des liens qui sont assez forts. Donc j'imagine bien tout ce petit monde qui ont tous des deuils à vivre aussi, mais se resserrer, quoi, et que le terrier, il peut redevenir un endroit où resserrer les liens et reconstruire ensemble et recréer des nouvelles familles, et voilà, quoi.
Carrément, je pense que c'est le point... le centre de gravité de la famille Wesley, où chacun, effectivement, va vivre sa vie, s'installer un petit peu en dehors, mais tout le monde revient chez Mamie Molly et Papy Arthur pour
ça doit être des grands-parents
pour passer
trop
le week-end,
cool.
etc.
Déjà que c'était des parents trop cool, mais des grands-parents vraiment...
Arthur, mais oui, Molly, je suis pas sûre tout le temps, tu vois. Je pense que quand tu as toute la famille qui est là à Noël, t'as pas intérêt, même si t'es son petit-fils ou sa petite-fille, à lui traîner trop dans les pattes.
Faut pas manger les gâteaux qui sont...
Ou alors, c'est le genre, de parents qui ont été très stricts avec leurs enfants, mais qui deviennent complètement gaga et complètement laxistes avec les petits-enfants, tu sais.
Ouais, j'imagine bien quand ils viennent tous juste pour le week-end, pour le repas du dimanche, l'après-midi après, à leur filer des petits gâteaux tout le temps.
C'est vrai, on n'est pas forcément les mêmes parents qu'on est grands-parents.
Non, mais clairement, c'est même très rare. Hein.
Avec Arthur qui montre tous ses trésors moldus aux petits-enfants. Ouais, ça va être sympa.
Bon, c'est déjà plus sympa.
Ah oui, c'est plus gay.
D'imaginer la suite avec tous les petits-enfants.
On peut partir là-dessus.
Voilà.
Le terrier qui reste un QG pour les familles, Potter, Weasley et Granger.
Qui redevient non plus un refuge, mais vraiment un foyer et un lieu de vie et de souvenirs.
Exactement. Belle conclusion.
Ben voilà. voilà. La visite est terminée.
On ferme les portes.
On veut tous aller au terrier.
Oui.
Il est probable qu'on n'a pas poussé toutes les portes.
Non, on a laissé la salle privée de Molly. On veut pas...
on la laisse. Mais
on n'est pas allé imaginer l'apparence de toutes les chambres de chacun, etc. Voilà.
Oui.
On garde peut-être ça pour une prochaine fois.
Bah, si on fait des focus personnages, si jamais on fait un épisode sur...
Oui.
Tout à fait.
Charlie.
Tout à fait.
on imaginera la chambre de Charlie.
Voilà. Alors, on manque pas d'idées. On peut encore faire 50, 100, 200, 300 épisodes de plus. Il n'y a pas de souci.
Allons-y.
Mais en attendant, si vous avez envie de découvrir d'autres épisodes de Salut les sorciers, vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez suivre notre actualité et l'annonce des sorties sur les réseaux sociaux Studio Gazette. Et dessus, vous retrouverez donc nos autres émissions également. Memento Vivere, Le Rappel Tout et parfois Aspic.
Qui reviendra un jour.
Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez évidemment partager ce podcast, lui mettre une bonne note si l'application sur laquelle vous l'écoutez en offre la possibilité, ou encore nous laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. De savoir ce que vous en pensez, si on vous a ouvert de nouvelles perspectives, donné à réfléchir, c'est toujours sympa. Et puis vous pouvez aussi nous faire un don sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier. Nous, ça nous permet de créer de nouvelles activités et de nouveaux goodies pour quand on part vous rencontrer en convention. Encore merci de votre fidélité à l'occasion de ce 50e épisode et à bientôt. Salut.
Salut.
Bye bye.
Bye.